l'heure du carillon. Bonjour à tous, ici Bernard Lauriac pour notre émission mensuelle qui portera aujourd'hui sur le carême. Ne coupez pas. Je sais que le carême est un mot usé, qu'on pense à la face de carême, sans la joie de Pâques, mais nous n'insisterons pas que sur la pénitence, ne craignez rien. Donc, pour moi, le carême, c'est surtout un chemin d'exploration et de résurrection. D'exploration, c'est-à-dire de recherche un petit peu sur soi-même, où on en est, est-ce qu'il faut bifurquer. Et de résurrection, ça ne veut pas dire un événement qui s'est passé il y a 2000 ans et qui est plus ou moins bien accepté et compris. Non, non, la résurrection, c'est pour les gens qui sont par terre, couchés, qui font de la déprime et qui se remettent debout. C'est pour aujourd'hui, la résurrection. Donc, un chemin d'exploration, un moment privilégié pour aller à la rencontre du CCFD, Terre Solidaire, une ONG chrétienne contre la faim et pour le développement. Il faut savoir que le 16 mars, au local paroissial du Tricot, deux Tunisiennes, nous parlerons de la révolution tunisienne et de leur projet de développement. Le carême, c'est aussi un jeûne interreligieux cette année, à l'appel de l'hebdomadaire La Vie. Et c'est aussi une prière biblique, et en particulier aujourd'hui, j'ai choisi le Cantique des Cantiques. Donc, pour parler de ce carême, du CCFD, du jeûne, nous avons bien sûr... je dirais la bande des quatre, sauf le père Grandjou qui n'a pas pu venir aujourd'hui et qui ils vont se présenter. Michel.
Oui, bonjour, Michel Montbressous, je fais partie de l'équipe qui anime cette émission.
Bonjour Émilie, je fais partie donc de l'équipe des animateurs.
Oui, et puis nous avons deux invités, le frère Paul
qui arrive de Notre-Dame de Treize-Pierres. Je suis religieux frère, c'est un peu inhabituel, je n'ai pas de mission reçue officiellement par l'Église, c'est à moi, j'allais dire, à l'inventer et à être un chrétien actif si possible, vivant quand même en communauté, c'est important, avec quelques prêtres, des frères et aussi des laïcs associés à notre communauté.
Et le père Boyer?
Je suis le père Raoul Boyer, je suis actuellement à Rupéus, après avoir été d'abord à Espalion, avant cela à Marcillac, et encore avant, aumônier des lycées à Rodez. Et depuis longtemps, je travaillais en lien avec le CCFD.
Bien, donc vous serez bien placé pour nous en parler, vous avez une expérience importante. Donc, je rappelle quand même que le carême, c'est une période de 40 jours qui va du mercredi des cendres jusqu'à la fête de Pâques. Ces 40 jours ont une signification. Le chiffre 40, c'est les 40 années de l'Exode. Vous savez, quand les Hébreux sortent de l'esclavage d'Égypte et vont vers la terre promise, la terre de Canaan. Mais c'est aussi les jeûnes de plusieurs grands prophètes, Moïse au Sinaï, qui est en colère parce que quand il était monté au Sinaï et qu'il revenait pas, il y a eu des scènes d'idolâtrie et il a cassé carrément les tables de la loi. Et pour demander pardon, il a fait un jeûne de 40 jours. Élie aussi a fait un jeûne de 40 jours. Jésus a fait avant
sa vie publique.
Hein. Sa vie publique.
Oui.
Voilà. Émilie est une chrétienne qui connaît sa Bible, c'est bien.
J'apprends.
Donc, avant d'aller plus loin, on va faire une petite coupure musicale. Oui, Père Boyer.
Et les 40 jours entre la résurrection et l'ascension.
Oui, aussi. Bon.
C'est vrai qu'on le retrouve beaucoup, ce chiffre de 40 dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Absolument. Oui. Donc, on écoute... Allez-y.
Oui, nous venons d'écouter un morceau d'Ennio Morricone.
Alors, nous sommes sur Radio CFM pour l'émission L'Heure du Carillon qui porte aujourd'hui sur le carême. Le carême, c'est d'abord le partage. Et il se trouve qu'une ONG, le CCFD Terre Solidaire, a fait de son point fort le carême et Père Boyer ou Frère Paul, expliquez-nous quels sont les objectifs du CCFD.
Oui, mais d'abord, que veut dire CCFD ?
Comité catholique contre la faim et pour le développement. Il faut savoir que ce sigle, cet angle, a été proposé par le pape Jean XXIII, qui a sollicité divers mouvements d'église ou services d'église pour qu'ils se coordonnent pour fonder ça. Donc c'est pas un mouvement supplémentaire, non, c'est un service animé par les divers mouvements. Ils étaient à l'origine, je crois, environ 28, je crois. Hein.
Donc un collectif.
Un collectif, voilà.
D'accord. Hein.
Un collectif qui concerne absolument tous les milieux, tous les âges aussi. Il peut y avoir des jeunes autant que des personnes à la retraite. Un exemple ou deux qui me viennent à l'esprit, le mouvement des chrétiens retraités, justement. Les chrétiens du monde rural, les scouts et guides de France, par exemple.
D'accord.
Et aussi les aumôneries, avec des plus jeunes encore, qui, animés par les animateurs, peuvent participer à ce courant-là.
C'est Bouge ta planète, hein, par exemple.
Oui, d'accord. Voilà.
Oui, alors, les objectifs de cette ONG, c'est quoi, plus précisément, frère Paul ?
Eh bien, il me semble que, d'abord, c'est une conviction profonde que nous avons. Nous refusons la fatalité de la misère. Et pour cela, il faut aller jusqu'aux causes structurelles de la pauvreté. Une autre particularité, c'est que nous ne visons pas nous-mêmes à agir au loin. Nous nous basons surtout sur la solidarité qui nous vient des associations locales. Donc ces associations locales sont confortées, sont soutenues par nous. Ben, j'allais dire un peu pour soulever le monde. C'est le logo du CCFD. Demain, bien ouverte, celle des pays émergents par exemple, la nôtre, pour soulever le monde qui n'est pas léger, qui est lourd. Donc c'est le logo du CCFD.
Et ce monde est en crise, et effectivement, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, on est dans des situations de pauvreté absolument terribles. J'ai fait un petit détour par Madagascar et j'ai vu la misère de près. Donc, il s'agit de soutenir les initiatives de développement, mais aussi... Donc la particularité par rapport à, je sais pas moi, au Secours populaire, au Secours catholique, c'est que c'est une organisation chrétienne qui veut sensibiliser particulièrement pendant cette période de carême les chrétiens à l'aide aux gens les plus pauvres.
Ah, c'est une association qui aussi insiste sur le ici et là-bas.
Alors, expliquez-nous.
Rien ne se fera là-bas si eux-mêmes n'ont pas déjà quelques projets, hein, oui. D'une part. D'autre part, nous, on estime qu'on peut leur apporter pas mal de choses, hein, mais eux aussi peuvent nous apporter.
Dans les deux sens,
le partenariat. Hein. On peut apporter des moyens techniques, un savoir, un savoir-faire, et des finances aussi, mais eux, là-bas, ils peuvent nous apporter leur sens de l'entraide entre eux. De la solidarité. Et dans un monde, notre monde, qui est pas mal individualiste, nous avons beaucoup à apprendre d'eux.
Oui, c'est pas un simple assistanat, c'est de l'échange.
Oui, tout à fait.
C'est aussi un questionnement pour nous. Parce que si nous vivons au-dessus de nos moyens, en demandant les moyens, les ressources du tiers-monde, cela fausse tout à fait les choses. Dans ce questionnement, il est vrai pour nous, il est vrai pour eux. C'est une problématique donc entre ici et là-bas.
Autrement dit, il faut qu'on se change nous-mêmes pour que on puisse le changer là-bas. Hein, c'est bien
voilà.
Ça. D'accord.
Et cela passe par des projets bien concrets. Je crois qu'il y en a 500 environ dans une soixantaine de pays. C'est dire quand même l'importance des moyens du CCFD.
Oui, moi j'ai été regardé sur Internet et j'ai vu que le CCFD, c'était la première ONG pour le développement que... elle collectait près de 38 millions d'euros, qui avait 300 000 donateurs, qu'elle intervenait dans 80 pays et qu'elle finançait 450 initiatives par an. Donc, c'est quelque chose d'important, hein, le CCFD.
Oui.
Bon, alors je rappelle que au local du Tricot, lundi à 18h30, nous aurons deux Tunisiennes qui vont nous parler de la révolution tunisienne. C'est la seule qui a réussi pratiquement, hein, parce que les dictateurs sont revenus, hein, le plus souvent. Oui, je pense au Yémen, sont revenus ou sont restés, la Syrie. Bon, donc ces deux Tunisiennes nous parleront des droits des femmes, parce qu'il y a, comme en France, pas mal de femmes battues, de l'école désertée, alors qu'on pensait que en Tunisie, depuis Bourguiba, il y avait une promotion par l'école et beaucoup de jeunes qui partent au djihad. Elles nous parleront de tout ça. Donc, partager, faire des dons, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais il y a un deuxième point sur lequel je voudrais particulièrement insister, c'est le jeûne. Et en particulier, cette année, à l'appel de l'hebdomadaire La Vie, il y a ce jeûne interreligieux. Vous pouvez nous en parler, Père Boyer ?
Oh, brièvement. Je sais que La Vie a lancé cette idée, qu'elle a été, ça a été rapide parce qu'il voulait réagir aux événements concernant début janvier Charlie Hebdo. Donc ils ont dû tout de suite voir comment faire, avec qui faire, et effectivement plusieurs confessions ont répondu. Vous disiez les bouddhistes, il y a aussi Israël, les juifs, les musulmans, les chrétiens, et j'en oublie un, je pense.
Donc, je crois que vous les avez cités.
Les particuliers, on avait parlé.
Oui, alors je crois que se sont joints aussi des gens qui ne sont pas dans des mouvements religieux.
Oui.
Je pense particulièrement à l'urgentiste qui était, qui faisait partie de l'équipe Charlie Hebdo, qui s'appelle, je me rappelle plus,
Patrick
Pelou, qui s'est joint effectivement à ce mouvement.
Et alors, d'après les catholiques, il y aurait environ une bonne, plus de 50 lieux qui sont déclarés favorables pour faire ce jeûne-là. Mais depuis, ça a essaimé bien au-delà de l'Europe et dans le monde. Même des communautés bouddhistes qui, sans s'adjoindre parce que c'est trop loin ou trop tard, ont décrété qu'ils faisaient un jeûne en lien avec cela.
Mais quel genre de jeûne ?
Alors, le jeûne, il faut peut-être le définir. C'est tout simplement ne pas manger. Alors, le jeûne complet, c'est toute une journée sans manger.
Et ça sans donne eau ni pain.
Hein?
Sans eau ni pain.
Il y a différentes formes de jeûne. Ça peut être un jeûne total, mais ça peut être un jeûne allégé. Ça dépend de chaque personne, ça.
Voilà, je crois qu'il faut le préciser. Chacun choisit
en fonction.
Par exemple,
on peut se priver de viande rouge et de vin pendant un repas. Ou bien sauter un repas, ça c'est possible, mais c'est quand même pas terrible le jeûne. C'est ça donne un petit creux dans la journée.
Ça fait du bien au
corps. Puis ça peut donner faim et soif de Dieu.
Oui, alors on va en parler. Mais je veux dire par rapport à la faim qui est vécue dans des pays d'Afrique, puisqu'il y a 400 millions d'Africains qui souffrent de la faim. Alors je me rappelle quand j'étais enseignant, pour faire comprendre aux élèves ce que c'était que la faim, je leur lisais un passage d'un livre qui s'appelle « Le riz et la mousson » de Kamala Markandaya. Voilà ce qu'elle dit sur la faim. « La faim est une curieuse chose. Au début, elle est tout le temps avec vous, que vous soyez éveillé, endormi ou en train de rêver, et votre estomac réclame avec insistance, et vous sentez au fond de vous une morsure et une douleur comme si une bête féroce s'attaquait à vos organes essentiels. Puis la douleur s'émousse, mais elle ne vous quitte pas, si bien que, maintes fois dans la journée, vous pensez à la nourriture et chaque fois, vous êtes saisi d'un terrible malaise. Comme vous le savez, vous essayez d'éviter de penser, mais rien à faire, la faim est en vous. Et puis, si ce constat aussi est dépassé, il ne subsiste ni souffrance ni désir, rien qu'un grand vide, comme le ciel, comme un puits à sec. Et c'est alors que la force abandonne vos membres. Vous essayez de vous lever et vous vous apercevez que vous en êtes incapable. Vous tentez d'avaler de l'eau et votre gorge s'y refuse. L'effort qu'il vous faut faire pour avaler et pour garder le liquide vous épuise. Donc, le CCFD qui lutte contre la faim, c'est quelque chose de terrible. Hein. Et ça, je pense que ça permet aux gens de comprendre quelle est la situation absolument scandaleuse d'enfants qui souffrent de la faim alors qu'ils sont innocents.
Surtout lorsque l'on voit que les riches sont de plus en plus riches et de plus en plus nombreux. Il y a un problème de partage des richesses de ce monde.
Oui, puis c'est vrai qu'on est souvent saturé de nourriture. Donc, comment imaginer quelqu'un, la souffrance de quelqu'un qui a faim ?
Alors, on parlait de jeunes interreligieux. Les musulmans font le ramadan. Et c'est beaucoup plus sérieux, je crois, que le carême.
Plus sérieux, parce que eux, ils ne mangent rien. Ils ne boivent rien. Alors que pour les chrétiens, du moins, le carême, ce n'est pas se priver de boire de l'eau. Il faut même boire beaucoup. Oui. Et les grands jeûneurs, je pense à Gandhi ou à d'autres, buvaient beaucoup. Buvaient.
Hein? Oui, mais au ramadan, ils se rattrapent le soir quand même un petit peu.
Oui.
Un peu. C'est-à-dire que pour les musulmans, le ramadan, c'est un peu un temps de convivialité. On se retrouve souvent dehors, dans la rue, Et c'est un ensemble, on est ensemble.
D'accord.
C'est une autre façon de jeûner.
Oui, c'est sûr
mais,
que...
Mais c'est tout un mouvement social, hein, oui, c'est tout individuel. Hein, c'est...
Mais pour, par rapport au jeûne, je pense que c'est surtout se priver du superflu.
Voilà.
Et on en a du superflu dans l'alimentation, beaucoup.
Et c'est pas que dans l'alimentation, hein, ça peut être se priver de d'Internet pendant quelques jours, ou de télévision.
Mais j'allais dire, pour les enfants, pour le jeûne, disons, hein, ils ne sont pas astreints au jeûne. Hein, mais ils peuvent facilement dire, je vais pas prendre ceci, cela, telle gâterie. Ça ne va pas altérer leur santé. Mais c'est un moyen de signifier, il y a du superflu, je veux pas m'en priver les autres de ça.
Je crois qu'il faut aussi replacer le jeûne dans un contexte. On attend, les chrétiens en tout cas, attendent de ce temps, un entraînement. Hein, ils veulent faire de ce temps un entraînement, un peu à la manière des sportifs, pour se rendre sensible à Dieu dans leur vie et pour se rendre sensible aussi aux autres et aux besoins des autres. Il ne faut pas oublier cette démarche plus large de conversion, de changement, d'orientation. Et Saint Paul revient souvent sur l'image du sportif qui s'entraîne.
Alors, les Juifs aussi font le jeûne du Yom Kippour, qui veut dire le jour des expiations, le grand pardon. Et c'est un jeûne pour eux qui dure 25 heures. Ça va du coucher du soleil, ça passe toute une journée jusqu'à ce qu'ils voient les étoiles. Donc, alors c'est un jour chômé, c'est un jour de prière, c'est une des grandes fêtes juives qui rappelle Moïse quand il a furieux cassé les tables de la loi lorsque les Israélites avaient construit le veau d'or. Hein, je crois que c'est bien ça. Donc, mais pour eux, d'ailleurs comme pour les catholiques, c'est pas une commémoration d'un événement, c'est un retour à l'événement premier. Hein, ça, c'est, je crois que c'est quelque chose d'important. Alors, le jeûne, ça a de bonnes conséquences, à la fois sur le corps.
Oui, il y a des jeûnes thérapeutiques, c'est vrai. C'est très bon de jeûner. On se libère.
Ah, l'infirmière, là.
C'est vrai que c'est important. On ne le fait pas suffisamment. On devrait le faire régulièrement parce que ça débarrasse le corps de toutes les toxines. Mais bien sûr, il faut faire un jeûne intelligent. Hein. Il ne s'agit pas de se priver de tout, de se rendre malade. Mais c'est vrai que c'est très thérapeutique, le jeûne. Oui.
Ça permet de se décrasser.
Ça décrasse l'organisme, exactement.
D'accord. Oui. Donc, un mécanisme d'autorégulation qui, paraît-il, a des conséquences positives sur les risques cardiovasculaires.
Tout à fait, oui.
Bon. Donc, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la contestation politique. Hein, vous parliez de Gandhi, et il y a des gens qui font des jeûnes pour alerter les gens.
Oui, oui.
Je me rappelle le député du Béarn qui s'appelle Lassalle.
Oui, oui.
Il était furieux contre les Japonais qui lui cassaient l'entreprise qu'il avait dans sa commune. Et il a tenu bon et je crois que les Japonais ont plié.
Oui, il a obtenu gain de cause. Oui.
Mais aussi, par rapport au CFED, CFED insiste beaucoup pour que les gens là-bas développent les cultures vivrières pour là-bas, pour eux. Et ici, ils insistent beaucoup pour dire, mais consommez ce qui est proche, pour éviter ces transports longue distance de 10 000 km, qui ne servent à rien. Hein.
C'est intéressant ce que vous dites là.
Consommez ici.
D'accord. Consommez ce qu'on a de chez nous, au lieu de faire venir des produits que nécessairement on est obligé, pour les entretenir, de leur mettre des produits qui finalement nuisent à la santé. Et puis de faire que chez les gens que l'on veut aider, on les apprenne d'abord à s'autogérer, c'est quand même quelque chose de très important, c'est vrai.
Oui,
donc ça a aussi de mauvaises conséquences au point de vue des gaz à effet de serre. Hein, tous ces transports par avion, ça...
Et par bateau.
J'ajoute une chose à propos... des partenaires tunisiennes ou autres qui viennent. C'est un moyen aussi pour nous ici, français, de comprendre, de connaître ce qu'ils vivent là-bas, ce qu'ils font là-bas. C'est un moyen qui nous apporte des choses. Oui. C'est le partenariat qui est vécu et écouté. D'où l'importance, nous aussi, Européens, Français, d'aller écouter ce que ces personnes ont à nous dire.
Tout à fait. Donc, avant de passer à autre chose, on va écouter un autre morceau de musique.
Voilà, c'est les quatre saisons des fêtes chrétiennes à l'abbaye de Sylvanès. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus.
Nous sommes sur Radio CFM de Villefranche de Rouergue pour l'émission L'Heure du Carillon qui porte aujourd'hui sur le carême. Nous avons déjà parlé du CCFD qui axe sa campagne sur le partage Et nous avons également parlé du jeûne, en particulier du jeûne interreligieux. Mais Émilie voulait ajouter quelque chose sur le jeûne.
Oui, au sujet du jeûne, donc c'est vrai que c'est très bon pour le corps et l'esprit. Ça nous apprend la maîtrise de soi. On est vigilant à ce qui rentre de la bouche, mais attention aussi à ce qui en sort de cette bouche. Voilà ce que je voulais dire. Les critiques, les paroles blessantes.
Les médisances, toutes les méchancetés qu'on peut dire. D'accord, oui. Alors, oui, Père Boyer.
Je sais qu'est-ce qui a dit ça. Mais il disait, la parole est d'argent, le silence est d'or.
Le sage écoute et le sot... je l'ai perdu. Le sage écoute et le sot s'exprime beaucoup trop. Le sot affirme.
Oui, on devrait réfléchir beaucoup plus avant de dire plein de bêtises. Mais on va passer au troisième point qui concerne le carême. C'est le partage, c'est le jeûne lié un peu donc à la pénitence, mais c'est aussi la prière. Alors la prière, frère Paul, vous pouvez nous en parler un peu.
La prière, je commencerai d'abord peut-être par une pensée du pape qui me vient à l'esprit. Vivre le carême, il nous dit, comme un parcours de formation du cœur. Et pour nous, croyants, chrétiens, c'est un appel pour revenir vers Dieu. Et revenir vers Dieu, c'est pour être davantage enraciné en Dieu. Alors le moyen qui me vient à l'esprit, tout d'abord, et qui va au-delà de la prière, c'est se nourrir de la parole de Dieu. Et c'est vrai que pendant cette quarantaine qui nous prépare à Pâques, nous avons droit en Église à un surchoix de textes bibliques. Ce ne sont pas des textes continus, mais c'est vraiment les plus beaux textes que l'on a retrouvés dans la Bible et qui nous sont donnés pour tous les jours. Et encore peut-être plus pour les dimanches du carême. Ce dimanche-ci qui vient, par exemple, ça sera autour de l'idée que celui qui veut faire la vérité, eh bien, il vient à la lumière. Jésus qui est lumière, et ça va nous aider à faire la vérité dans notre vie. Pour les choix, notamment. Voilà, c'est une première dimension, oui. Se nourrir de la parole de Dieu, et ça, c'est inestimable, c'est très pratique aussi. Beaucoup de chrétiens se réfèrent à des citations de la parole de Dieu, même à des livrets, et cette parole de Dieu nous est très présente.
On dit que la parole de Dieu nourrit l'âme.
Oui. Alors c'est ce qu'on appelle la lectio divina. Et les catholiques, pendant très longtemps, ils se contentaient de la prédication du dimanche, où le prêtre commentait les textes du jour, mais ils revenaient pas tellement à la Bible, ce que faisaient davantage les protestants. Mais il y a différentes façons de prier, en dehors de la lectio divina. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, des prières toutes simples?
Mais tout à l'heure, oui. Alessandre, tu parlais que le célébrant parlait, bon, hein, mais les chrétiens, ils n'avaient pas accès à la parole de Dieu, elle était en latin. Ils n'avaient pas accès. Donc le prédicateur pouvait dire beaucoup de choses. Mais j'allais ajouter une chose. On parle beaucoup de suivre sa conscience. C'est essentiel. Mais j'estime que notre conscience peut être dénaturée. On peut imaginer ce qu'on doit faire. Notre conscience doit toujours être inspirée par la parole de Dieu. Sinon, on peut faire n'importe quoi en sa conscience. Mais en tout cas, je pense pour ma part que si actuellement les gars de Daesh, là, s'ils lisaient un peu la Bible, certainement pas.
Et le Coran
non plus. Oui. Mais leur conscience le fait dire que Dieu, Allah, il veut ça. Leur conscience est pervertie.
Oui, vous avez raison, je crois c'est que la conscience, oui. Elle doit être éduquée.
Éduquée. Oui. Alors, d'une part, pour nous chrétiens, c'est la Bible, la parole de Dieu, qui peut être pas toujours suffisante. D'où l'importance pour nous aussi d'écouter ce qu'on appelle, nous, le magistère. Ceux qui ont mission de nous éclairer. Car notre conscience, elle est fragile.
Alors, Michel.
Dans ces conditions, on place où le non-croyant? Est-ce que la philosophie peut suffire à l'éducation de la conscience? Que faut-il qu'il fasse?
Ah, je crois que l'Esprit Saint n'est pas prisonnier de nos catégories à nous, et qu'il peut influencer les personnes indépendamment de nous, sans notre contrainte. Hein, ça, je le crois très fort aussi.
Il faut quand même une ouverture, il ne faut pas un refus pour que cela se fasse dans de bonnes conditions.
J'ajouterais aussi que dans une société où l'Église a un peu sa place, elle a une parole. Hein, même le non-croyant peut se laisser influencer ou être influencé par ce qui est dit. Par l'Église ou par d'autres.
Mais moi, je connais des saints laïcs. Je m'explique. Il y a des gens qui disent, écoutez, moi, la grâce ne m'a pas touché. J'ai vu tout le mal qu'ont fait les religions à travers l'histoire. Mais moi, j'essaie, à mon petit niveau, d'aider les autres. Et ça rejoint la parole de Matthieu 25, quand il dit « Ceux qui ont été voir le prisonnier, ceux qui ont aidé le malheureux, ceux qui ont agi pour que la société soit moins dure, moins barbare, etc. Ben, » c'est eux qui iront carrément au paradis. Enfin,
c'est à moi que vous l'avez fait.
Voilà, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, oui. Donc, on ne se rend pas compte, mais quand on fait des choses bien, c'est au Christ qu'on l'a fait.
Tout à fait.
Donc, le partage ne se fait pas entre, pour aller au paradis, entre ceux qui vont à la messe tous les dimanches et ceux qui n'y vont pas. C'est ceux qui ont le cœur pur.
Hein. C'est important à dire.
Oui.
Donc, alors, il y a d'autres formes de prière encore. Il y en a... c'est ce qu'on appelle le christianisme populaire. Il y a des gens qui disent des « Je vous salue Marie », c'est le rosaire. Hein. Il y en a qui réfléchissent, font une sorte de révision de vie. Hein. Oui. Ils se disent « Bon, dans cette journée, qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Qu'est-ce qu'il y a eu de négatif? Et ce qu'il y a eu de positif et de bien, ben, je l'offre à Dieu. » C'est une prière, ça.
Hein? C'est une prière en soi, mais le mot prière revient un petit peu. Il a passé une période, l'après mai 68, il y a pour quelque chose, qui faisait que le mot prière était absolument rejeté. Et c'est un petit peu dommage, parce que une bonne action est une prière. Et c'est pas pour autant qu'il faut se cantonner à ça. Mais je pense qu'on a besoin de remettre à sa place ce mot prière, et peut-être de le vivre un petit peu mieux.
Alors, je pense à la minute de silence qu'on observe. Par exemple, lors des événements de Charlie Hebdo, ben, c'est une forme de prière, mais une prière laïque, je dirais.
Oui.
Je croyais que... Pardon. La prière, ce n'est pas de la demande, ou pas que ça. Mais c'est surtout, je crois, s'ajuster à Dieu. Arriver à penser, à sentir, à réagir un peu comme Dieu. Et une des prières les plus simples, je crois... Hein, c'est tout de même notre Père. Hein. Mais s'ajuster à Dieu.
La prière peut être aussi un remerciement. Il ne faut pas l'oublier. Autrefois, c'est vrai que la prière, c'était surtout une demande.
Frère Paul, peut-être. Eh bien, moi, je crois que dans notre journée, dans les situations les plus diverses, le chrétien se sait accompagné par Jésus. Et donc, il essaie de réagir comme Jésus, il questionne Jésus, s'il ne voit pas clair, par exemple, mais cette idée d'être accompagné par Dieu, ça me semble très important et très simple, dans les situations les plus diverses, les plus inattendues ou les plus ordinaires. Que ce soit pour préparer son travail, que ce soit à la cuisine, que ce soit pendant les repas, que ce soit les rencontres avec des personnes. Voilà. Et puis à côté de ça, bien sûr, il y a la prière plus officielle de l'Église, qui est un recours important, surtout si on est à plusieurs. Ce qu'on appelle la prière du temps présent, c'est désormais à la portée de tout chrétien, puisque des livres existent, des communautés vivent cela, et même chantent les laudes, par exemple, ou les vêpres, chez nous, par exemple, à la Sainte Famille.
Oui, je voudrais dire sur la prière de demande qui est la plus classique. Moi, je me rappelle une note d'humour. Ma grand-mère, quand elle faisait une prière et qu'elle n'était pas satisfaite, eh bien la Sainte Vierge, ouf, elle la tournait complètement.
Mais ça prouve une foi en Dieu et en la Sainte Vierge, ça. Parce que si elle n'y croyait pas, elle n'aurait pas retourné.
Oui, alors je reviens à ce qu'on appelait la Lectio Divina. Dans la croix, là, j'ai trouvé un chant d'amour, que j'ai trouvé une poésie absolument sublime, et je voudrais vous la lire. Parce que certains peuvent le prendre comme un poème d'amour, tout simplement, hein, entre un homme et une femme, mais d'autres y voient aussi une dimension mystique. Alors, à mon avis, c'est un des plus beaux morceaux de la Bible, que ce Cantique des Cantiques. D'ailleurs, les grands mystiques, Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse d'Avila, en avaient fait un morceau privilégié pour eux. Et d'ailleurs, les poètes, je crois que Victor Hugo, Claudel, se sont inspirés de ce Cantique des Cantiques. Alors, je vous le lis. Reviens, reviens, ô Soulamite que nous t'admirons. Tes pieds, comme ils sont beaux dans tes sandales, fille de prince. Les courbes de tes hanches dessinent des colliers, œuvre des mains d'artistes. Ton nombril, une coupe ronde où le vin ne tarit pas. Ton ventre, un monceau de blé dans un enclos de lys. Tes deux seins, deux fans, jumeaux d'une gazelle. Tu es lancé comme les palmiers. Tes seins en sont les grappes. J'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai les fruits. Tes seins, qu'ils soient comme des grappes de raisin. Oh, que tu es belle, que tu es douce, amour en tes caresses. Ta tête se dresse comme le Carmel. Sa parure est de pourpre. Un roi s'est pris dans ses tresses. Ton cou, une tour d'ivoire. Tes yeux, les vasques de Heshbon à la porte de Batrabin. Ton nez, comme la tour du Liban, sentinelle tournée vers Damas. Ta bouche, un vin exquis. Il s'écoule vers mon bien-aimé, abreuvant des lèvres endormies. Bon. Voyez, c'est magnifique.
Beau, hein. C'est vrai que c'est presque érotique.
Non,
ça l'est même, oui.
C'est érotique, absolument.
Oui, c'est ce que je vous disais à l'oreille à notre ami. Mais c'est aussi une louange à la créature de Dieu, à ce que Dieu a fait de bon, puisque c'est admirable.
Alors, c'est une parole incandescente. À mon avis, elle est peu lue dans les liturgies, sauf pour les mariages, hein, je crois. Sauf pour les mariages. Mais... ça puise son origine aussi bien dans des poésies païennes que dans les livres des prophètes, en particulier les livres d'Isaïe sur la vigne, en particulier.
Et Jérémie.
Et Osée aussi, hein, qui avait une femme qui n'était pas très sérieuse, mais qui l'a fait revenir à Dieu. Donc, c'est un texte mystique également, parce que c'est un chant de l'expérience intime de Dieu. Dieu est amour, hein, avant tout, et l'expérience de l'amour humain, c'est une avancée vers l'amour de Dieu. Et donc, c'est la parole de l'alliance de Dieu et de son épouse, l'Église, car le bien-aimé, c'est le Christ. Alors, j'ai compris que les participants avaient encore des choses à dire sur les trois points que nous avons énumérés. Je rappelle que nous sommes sur Radio CFM de Villefranche, que c'est l'émission mensuelle L'Heure du Carillon, et qu'aujourd'hui, nous parlons du carême. Alors, Émilie.
Oui, au sujet de la prière, c'est vrai que c'est un moment d'intimité avec Dieu, mais je voudrais citer cette phrase d'une homélie du père Didier Granjou, qui dit « La prière n'est pas un refuge confortable, elle est le véritable moteur de l'action ». Et c'est vrai qu'on le voit dans Jésus, les 40 jours passés au désert, mais c'est ce qui allait préparer le début de sa vie publique.
Voilà, effectivement, le jeûne est une préparation à l'action. La prière, c'est le carburant du chrétien. Hein. Voilà. Et si on n'a pas ce carburant, eh bien, au bout d'un certain temps, tout fout le camp.
Père Boyer. On peut sombrer dans l'activisme. Oui. Agir pour
tout
agir.
Fait. Voilà. Tout à fait.
Pour occuper le temps, occuper l'espace. Oui. Alors que le jeûne, la prière, c'est un moyen de se mûrir, de se préparer pour se dire. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me comporter? De manière que notre temps soit plaigné et pas de l'activisme.
Voilà, l'intériorité de l'être souffre de l'hyperactivisme, c'est vrai.
Et le point d'arrivée, j'allais dire, de notre carême, c'est quand même la Semaine Sainte, depuis les rameaux jusqu'à l'évocation de la mort de Jésus, la passion de Jésus et Pâques. Donc, après avoir été préparé par le baptême, on se sent prêt aussi pour accueillir encore davantage Jésus et revivre ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est-à-dire faire le passage entre tout ce qui est mort et tout ce qui est vie, pour arriver justement à cette vie et cette joie de Pâques.
Alors Pâques, effectivement, c'est le point central de la vie chrétienne. Beaucoup pensent que c'est Noël, mais je pense que la passion, la mort et la résurrection, c'est fondamental. Hein. Si on ne croit pas à la résurrection, on n'est pas vraiment chrétien.
La victoire de la vie sur la mort est essentielle.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Curieusement, j'ai essayé un peu d'étudier Saint Jean. Le début Saint-Jean, il y a une semaine. Hein? Une semaine qui est précédée par l'éternité. Le Verbe était Dieu, il était en Dieu. Bon, hein? Et cette semaine-là se termine avec Cana, qui est le premier signe. C'est la fête, Cana. À la fin de Saint-Jean, il y a de nouveau une semaine qui commence avec les rameaux, hein? L'entrée à Jérusalem, qui se termine le samedi. Et la résurrection, c'est le huitième jour, l'éternité. Pâques ouvre à l'éternité.
Absolument. je dirais quelques pistes d'action pour le carême, quelques propositions. Vous en faites ce que vous en voulez, bien entendu. Donc, il y a ce jeûne dont nous avons parlé, et je l'axerai sur les problèmes du climat, parce que c'est fondamental, parce qu'on va vivre en décembre à Paris une conférence, la 21e conférence sur le climat, et que si on change pas notre vie, on va entraîner des catastrophes.
On va dans le mur.
On va complètement dans le mur. Donc ça, c'est particulièrement important. Autre piste qui est proposée par le CCFD, c'est d'inviter à sa table un étudiant étranger, un Français musulman. L'autre jour, je suis monté à Rodez, j'avais été faire un tour à la mosquée, et j'ai trouvé un musulman, je lui dis, je vais à une réunion entre catholiques, protestants et musulmans à Rodez, si tu veux, je t'amène. Je l'ai amené, et alors, pendant le voyage, c'était sûrement l'heure, il a carrément prié à haute voix dans ma voiture. Ça m'a quand même particulièrement bousculé, et je lui ai dit, mais il faut venir participer à une table ronde le 16 mars, lundi lundi qui vient, là, hein. Parce qu'il y aura une table ronde avec les Tunisiennes, il y aura le sous-préfet, il y aura des gens des droits de l'homme, il faut absolument venir. Et il m'a dit, oui, je le dirai aux gens de la mosquée, ils viendront, si c'est pas la table ronde, ils viendront le soir, à 8h30, participer au local du Tricot, à cette rencontre. Donc, invité à sa table. Alors, bien entendu, donner à la collecte du CCFD, début avril, hein, il y aura une collecte à la collégiale à 11h. Il faut aussi, c'est une possibilité, s'informer sur l'accaparement des terres en Afrique. Et pour ça, le CCFD, on peut prendre sur internet ccfd-terresolidaire-ça-se-tient.org et là on vous fera un petit peu le point sur les terres accaparées par les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, les pays du Golfe. C'est un scandale parce que je sais pas où c'est qu'on va avec ça. Et il y a aussi le site des franciscains de Toulouse qui organise un cercle de silence sur l'accueil des migrants. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc voilà quelques pistes après tout hein, qui sont proposées par le CCFD.
Oui, pour le CCFD, ce n'est pas une affaire simplement pour les chrétiens. Si l'on a ajouté, j'allais dire, le sous-titre Terre solidaire, c'est pour bien montrer que tout le monde peut être concerné. Et pour qu'on ne soit pas gêné, ben je sais que il y a des non-pratiquants, par exemple, qui veulent faire un don, ils peuvent le faire, par exemple, à la délégation diocésaine ou même auprès de l'équipe nationale. Parce que, encore une fois, tout le monde partage ses perspectives humanitaires.
Alors, nous allons terminer par un dernier morceau de musique, mais je voudrais annoncer la prochaine émission qui va porter sur le synode diocésain. Alors le synode, en deux mots, c'est une vaste consultation de tout le peuple de Dieu. L'étymologie de synode, ça signifie faire route ensemble, et c'est un temps donc de dialogue et de discernement. Alors, bien entendu, au revoir, à bientôt, dans un mois, à tous les auditeurs.
Je voudrais ajouter un grand merci à tous ces gens qui se dévouent. Je trouve que c'est admiratif, qu'ils soient croyants ou incroyants, et le CCFD en particulier. Je crois qu'on oublie tout ce que fait, est-ce qu'est le CCFD.
Oui, quand merci même à tous ces bénévoles.
Oui, le CCFD, le Secours Populaire, le Secours Catholique, tous les organismes qui font quelque chose.
Voilà, absolument. Ne pas confondre terre accaparée et terre solidaire.
Absolument.
C'est essentiel.
Tout à fait.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Thank you.